Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des outils et des stratégies pour vous aider à monter votre marque. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Tony Pinville, il est le cofondateur et le CEO de Euritech. Bonjour Tony.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Tony, j'ai 39 ans, je suis donc le CEO et cofondateur d'Euritech. Un petit peu de background, moi je ne viens pas du tout de la mode.
Ouais.
J'ai toujours été passionné par l'informatique.
D'accord.
Depuis toujours.
Et ça a commencé par quoi? C'était par les jeux vidéo, comme beaucoup
de ta
génération?
Même pas, en fait, j'ai vraiment commencé. Alors, bon, vu que j'ai 39 ans, bah, c'était vraiment les débuts de l'informatique, quoi.
C'était Atari.
C'était même avant le Thomson TO7. C'était mon premier ordinateur que j'ai bidouillé quand j'avais 5-6 ans. Ouais. Après Atari, tout ça. Mais tout intéressé par les jeux vidéo, mais principalement déjà pour comment comprendre un peu comment ça marche, un peu par la programmation très rapidement, et essayer de bidouiller, démonter les ordinateurs, démonter, au grand dam de mes parents, je démontais un peu tout ce qui était électronique. Donc ça a toujours été une passion à ce niveau-là, et essayer de créer des programmes rapidement, quoi. Donc ça, que ce soit au collège, au lycée, créer des programmes sur des calculatrices, sur des ordinateurs, sur tous les types d'ordinateurs. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et au niveau professionnel, maintenant ça fait 20 ans, parce que j'ai commencé assez tôt à travailler, en fait.
Ouais.
Toujours dans l'informatique au départ, dans développement d'applications informatiques.
D'accord.
Un des premiers projets que j'ai fait, c'était un peu un ancêtre de Google Maps. J'étais dans une société qui s'appelait à l'époque Claritas. Et c'était le développement d'un service sur Internet qui permettait aux entreprises d'afficher leurs emplacements d'entreprise. Tu tapais l'adresse et ça affichait comme Google Maps, mais c'était en 2000, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'était le début d'Internet, la bulle Internet. Donc d'accord. J'ai connu de l'intérieur en tant que développeur d'application. J'ai fait ça pas mal de temps. J'ai travaillé ensuite dans une société dans la finance de marché, où j'ai fait énormément d'applications différentes, par exemple des
outils. Bourse Direct, c'est ça?
Exactement. Ouais, Bourse Direct, où j'ai fait des outils de passage de ordre, j'ai fait des outils de récupération de cours de bourse en terrain réel. D'un point de vue technique, c'est très intéressant. Moi, j'étais pas du tout passionné par la finance, mais passionné par les challenges que ça requiert. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un besoin de faire des choses qui marchent, parce qu'il y a un petit peu d'argent en jeu, des choses qui marchent bien et rapidement. Donc ça, c'était assez passionnant, intellectuellement parlant, de créer ces logiciels-là. J'ai fait ça pendant 6 ans, où j'étais au début, effectivement, développeur, puis après, responsable d'équipe, responsable de la pôle, du pôle R&D. Mais une fois que j'ai un peu monté tout le projet, monté toute l'équipe, une fois que ça fonctionnait,
plus trop de challenge,
ça fonctionnait, il y a un petit peu à maintenir. Moi, c'était pas ce qui m'excitait beaucoup. Donc c'est là où je me suis lancé vraiment dans un petit peu un changement professionnel assez radical, en 2009, où j'ai décidé de revenir un peu à mes premiers amours. C'était tout ce qui tournait autour de l'intelligence artificielle, et donc très lié à l'informatique. Et je me suis dit, est-ce que c'est peut-être le moment de tenter? J'avais 29 ans, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais le moment de faire une thèse en IA, quoi. Parce que plus on attend, plus c'est compliqué de faire une thèse, quoi. Déjà, c'est assez rare de la faire, pas directement après ses études, donc de la faire après avoir travaillé, c'est assez rare. Je me suis dit, ok, faisons ça.
Mais ça veut dire quoi, alors, faire une thèse? Et surtout, parce que tu nous dis que t'as bossé très tôt, mais alors, c'est-à-dire que t'as toujours fait tes études en parallèle,
c'est ça? Moi, j'ai commencé à bosser à 19 ans, mais en alternance, en fait. Donc, j'ai J'avais besoin effectivement à la fois en travaillant de quand même de valider des diplômes. Je me voyais pas forcément effectivement avoir sans diplôme. Je pense bah, ça m'a servi justement pour pouvoir faire une thèse après. Mmh. C'est pas forcément pendant les études que j'ai appris beaucoup sur la partie informatique, voire peu.
Ouais, mais comme que... dans toutes les études, non.
Je pense que c'est. Alors je sais pas, ça dépend beaucoup. Hein. Je veux pas généraliser, mais je pense que c'est un. Il y a peut-être une spécificité au niveau de l'informatique, dans le sens où en gros, ça évolue très vite et c'est dur d'avoir des programmes qui fuient. Donc moi, en tout cas, personnellement, ça me correspondait beaucoup plus d'apprendre sur des choses concrètes. C'est pour ça que j'avais envie de faire ça en alternance. Et j'ai appris beaucoup parce que j'étais aussi dans des boîtes où il y avait énormément de choses à construire. Quoi. Donc ça, c'était aussi une bonne opportunité. Et donc, à quoi ça consiste faire une thèse? Bah déjà, en fait, c'est chercher, trouver un labo dans des sujets qui nous intéressent. Donc moi, en fait, j'avais contacté un laboratoire qui est à Jussieu, qui s'appelle Lisir, l'Institut des systèmes d'informatique et de robotique.
Jussieu, c'est où?
C'est par ici, c'est Sorbonne Université.
D'accord,
en fait,
okay.
D'ailleurs, okay. Maintenant, c'est le nom
officiel. Ouais.
Le nom officiel, c'est Sorbonne Université. Donc, c'est vraiment une université qui est réputée pour pas mal de sujets, ouais. Et notamment autour de l'intelligence artificielle. Bah, par exemple, une des personnes connues dont on parle beaucoup autour de l'intelligence artificielle, Yann Lequin, ouais. Qui est directeur de recherche de Facebook, vient du même labo qui vient de Jussieu. Donc, voilà, c'est au niveau international, c'est quand même un labo qui est vraiment reconnu. Mmh. Donc moi, j'ai contacté mon directeur de thèse, la personne qui a été mon directeur de thèse, Stéphane Doncieux. Je lui ai envoyé un mail, un petit peu comme une lettre à la mer, une bouteille à la mer, pardon, en lui disant voilà, j'ai pas du tout d'expérience dans la recherche, mais je suis passionné par l'IA. Je suis passionné par ce que vous faites. En fait, son domaine de recherche est lié à inspiration de la théorie de l'évolution pour faire évoluer des robots, des réseaux de neurones pour contrôler des robots. Donc voilà, c'est pas ce sujet.
Ouais.
Moi, ce que je trouvais passionnant,
c'était... Tu vas nous expliquer un peu quand même.
Ouais, je vais vous faire quelques heures d'explication. Non, bien sûr, avec plaisir. Ouais. En fait, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était un mi-chemin entre plusieurs sujets. Effectivement, le sujet intelligence artificielle, mais le sujet aussi... un petit peu neurosciences, un petit peu biologie, enfin inspiration de la nature, et bien évidemment informatique. Donc tout cette cross-fertilisation, je trouvais ça vraiment passionnant. Donc j'ai contacté vraiment de manière, moi je ne connaissais pas du tout, je lui ai envoyé un mail avec mon CV qui était j'ai travaillé dans la finance de marché, donc aucun rapport avec vous, mais ouais. je suis passionné par ça, je veux faire une thèse.
Et qu'est-ce qui t'excitait là-dedans?
C'est vraiment, j'ai toujours été passionné par l'IA, mais comme on l'est sans vraiment connaître le sujet, je m'intéressais. Mais
ça te fascine quoi.
Ça me fascinait dans cette capacité que pouvait avoir, qu'on pouvait arriver à faire apprendre un ordinateur quelque chose de non vivant, des éléments. Donc moi, depuis tout petit, ça m'a passionné, essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau pour essayer de le reproduire et arriver à automatiser des tâches intellectuelles répétitives. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé toujours passionnant, sans travailler dessus, quoi, ouais, sans avoir vraiment de connaissances.
Ouais.
Et donc, voilà, moi, je l'ai contacté en disant, voilà, je suis vraiment passionné par ça. Étonnamment, il m'a reçu, parce qu'ils reçoivent pas mal de sollicitations. Et après, il faut se remettre aussi dans l'idée qu'en 2009, on parlait assez peu d'IA. Enfin, on en parlait, c'était moins à la mode que maintenant. Quoi. Au niveau entreprise, on n'en parlait pas du tout. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'IA. C'est-à-dire qu'on a parlé énormément il y a 50 ans. Il y a eu un premier hiver d'IA. On a reparlé dans les années 80. Et en 2009, il y a eu énormément de recherches, mais très peu, ça buzzait assez peu. Quoi. Donc moi, j'ai dit, voilà, j'ai envie de faire cette thèse-là. Au début, il me dit, attends, c'est vraiment très dur, t'as pas eu tout le profil, faut vraiment être motivé, il y a pas de budget, enfin, pourquoi tu veux faire ça, quoi? Je dis, parce que moi, ça me passionne. Et surtout qu'en plus, quand on fait une thèse, c'est quelques sacrifices, quoi. Financiers. Parce qu'en plus, moi, je venais secteur financier, secteur de la finance de marché.
Ouais, où tu gagnais très bien ta vie, etc.
Ouais, voilà, ouais. Ça allait, j'avais pas trop de soucis à ce niveau-là. Alors qu'en thèse,
il n'y a pas d'argent.
Les budgets sont limités. Alors on est quand même payé. On a en fait quand on fait une thèse en sciences, type en informatique, on doit avoir une bourse de thèse et donc on est payé. Donc on est payé, ça veut dire c'est 1 400 euros, c'est le prix d'une thèse. Voilà. Donc, C'était un petit peu moins que ce que je gagnais avant.
Même beaucoup moins, non, je pense.
Ah, ouais, je disais un petit par presque trois à mon salaire, mais ouais, voilà, c'était. Ouais, ouais. Donc ça montrait aussi ma motivation. Il m'a dit, ok, bon, tu veux faire ça, bah, je vais te donner plein de livres à lire sur le sujet et on se voit après l'été et tu me fais un petit résumé. Donc bah moi pendant l'été j'ai potassé sur la plage avec des gros bouquins. Et ce qui était marrant, c'est que bon, c'était des bouquins en anglais. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est des termes qu'en anglais, je connais pas, quoi. Ouais. Puis je m'amusais à les traduire. Mais en fait, je connaissais pas non plus en termes français.
D'accord.
Donc, c'était vraiment assez intense.
Ah, c'est une grosse découverte, quand même.
Ouais, ah, mais à des années-lumière. Enfin, déjà, même la première étape, c'est-à-dire un peu comprendre un peu le haut du truc. Donc, je l'ai vu en septembre. Il m'a dit, OK, je lui fais un petit débrief de ce que j'avais compris. Mmh. A priori, j'avais compris deux, trois petits trucs de manière très macro.
Ouais. Ouais.
Et il m'a dit, ok, bah moi j'ai une bourse de thèse pour toi, parce qu'en fait voilà, pour faire une thèse, ça dure en science, ça dure en moyenne 3 ans et demi, donc c'est minimum 3 ans, en gros, entre 3 et 4 on va dire.
Okay.
Il faut avoir une bourse de thèse qui soit du ministère, soit, alors c'est assez compliqué, enfin, soit de européen, soit voilà, il y a plusieurs moyens, mais il faut avoir une bourse de thèse. Lui, il avait une bourse de thèse pour un projet, il m'a dit, ok, moi go. Et là, je me suis dit, ah mince, donc là, si je dis go, je quitte mon job et je me retrouve à un truc où je sais pas si j'y arrive pour gagner pas grand chose et pour galérer un peu.
Mais surtout, le projet, c'est quoi derrière? Une fois que t'as fait une thèse, tu fais quoi derrière?
Ah, alors, c'est une bonne question.
Non, mais parce que quand tu te lances, tu vois, enfin, moi, quand j'ai fait mon école de mode à 29 ans, le même âge que toi.
Ouais, exactement pareil, bah, c'est changement.
Ouais, changement de vie. Et tu te dis, bon, bah, derrière, bah, tu vas rentrer dans un studio, etc. Et tu te lances dans une nouvelle carrière. Quand tu fais une thèse comme ça en intelligence artificielle, c'est pareil.
C'est pour faire un chercheur. En gros, enfin, en tout cas, moi, comment je l'ai vu, c'est, je me dis, bah, j'ai envie d'être chercheur, de faire la recherche, donc, auprès d'une université ou auprès d'une CNRS. Donc, c'est, quand t'es dans une université, tu fais, t'as une partie recherche et une partie cours à la fac, quoi. Et chercheur au CNRS, t'as principalement de la recherche, quoi.
D'accord.
Donc, moi, je connaissais pas grand, enfin, je connaissais un petit peu, mais pas grand chose à ce niveau-là, mais ça, j'avais envie de faire ça. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc, je me suis dit, bah, voilà, pour faire ça, faut faire une thèse. Et une thèse, t'es apprenti chercheur, en fait. C'est-à-dire que, c'est un travail, c'est pas être étudiant, j'en ai faire une thèse, quoi. C'est
tu cherches,
tu fais la recherche, tu dois publier, sinon c'est pas chercheur.
Ouais.
Tu dois publier des articles, tu fais avancer la science, même si tu trouves rien, tu fais avancer à ton petit niveau, hein. Et tu fais avancer la science parce que voilà, et tu participes à des colloques où tu présentes un peu tes travaux et à la fin tu rédiges un manuscrit voilà, qui demande un petit peu de temps et voilà, t'as à ton niveau fait avancer la science.
D'accord.
Et donc voilà, quand je me suis retrouvé là-dedans, effectivement là j'ai vu que on se rend pas forcément compte quand on n'a pas fait de thèse du niveau en fait qu'il y a dans les labos, surtout en tout cas là où j'étais. Où je pensais avoir, bon, ça faisait pas mal de temps, même en informatique, voilà, je me débrouillais, quoi. Je pensais, en tout cas. Et en tout cas, je me suis retrouvé là, je me suis rendu compte que même sur les points où je pensais être, avoir un bon niveau, bah, j'étais pas
très fort.
Pas ouf. Et il y avait d'autres sujets à aborder, donc, essayer d'appréhender un petit peu les problématiques de neurosciences, les problématiques d'intelligence artificielle, plein de sujets, parce qu'en fait, voilà, le sujet était à mi-chemin entre plein de domaines. Et la première année, elle était, extrêmement intense, mais passionnante. Enfin, c'est une remise en question totale de ses propres connaissances, mais pour après, en fait, au début, on se noie, on coule, on boit la tasse une fois, deux fois, 15 fois, et au bout d'un moment, on commence à sortir de l'eau. Et là, c'est passionnant, et surtout que l'environnement est extrêmement bienveillant. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné par des gens vraiment formidables qui m'ont beaucoup aidé et aidé justement à comprendre qu'est-ce que c'est d'être chercheur, qu'est-ce que c'est de comprendre un article de recherche. Je disais une page et je m'endormais parce que c'était tellement intense de comprendre au début. Ouais. J'arrivais même pas à lire plus que ça. Après, donc, essayer de comprendre ce qui se dit et après, faire des expériences, publier, faire tous ces sujets-là qui sont vraiment passionnants, quoi. Donc, et c'est pendant cette thèse-là, en fait, que j'ai rencontré, notamment Charles, mon associé qui a commencé la thèse un petit peu après moi, mais qu'on était sur les mêmes sujets, quoi. On a même publié des articles ensemble. Donc c'est là où on a appris à se connaître et on a appris, enfin, et dans l'équipe, j'étais à Lisir, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant chez Euritech, justement. Donc on a appris à se connaître là et on est arrivé à un moment un peu charnière en IA. Donc ça, c'est une question de, d'opportunités.
Qu'est-ce qu'il faisait, lui, Charles?
Alors, Charles, lui, il a un parcours plus classique. Lui, ouais. Il a fait une école d'ingénierie à Télécom. Ensuite, il a fait un master recherche en double diplôme. Et ensuite, il a intégré une thèse. Donc, c'est un parcours plus, on va dire, traditionnel. Surtout en IA, il y a beaucoup de gens qui viennent d'école d'ingé, qui font un double cursus avec un master de recherche. Et ensuite, ils font une thèse. Ça, c'est, on va dire, le parcours classique. Donc, lui, il a fait ça, donc, plus jeune. Et voilà. Et c'est le cas de pas mal de personnes qui sont ici. Et donc, on est arrivé à un moment assez charnière en IA où on commençait à parler d'une technologie qui s'appelle le deep learning. Donc en recherche, a commencé à buzzer quand on a commencé nos thèses en 2009-2010. Et quelque chose qui a vraiment... Enfin, il y a eu un avant, un après. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, avec à l'arrivée de cette technologie deep learning, il y avait des choses, notamment en termes d'analyse d'images, de vidéos, de textes, qui étaient possibles à faire, qui changeaient vraiment radicalement la donne, quoi, sur... la capacité à reconnaître plus précisément des choses dans des images, c'était pas juste un incrément, c'était vraiment quelque chose de très différenciant, quoi. Donc quand on a vu toute cette vague autour du deep learning, on s'est dit mais il y a peut-être quelque chose à faire à mi-chemin entre la recherche plus académique et des choses d'application plus concrètes. Nous, on s'est rendu compte assez rapidement, moi ça m'a passionné de faire cette thèse-là, mais que j'avais pas forcément envie d'être finalement chercheur, ce que je pensais au départ, mais plutôt être sur des choses plus directement applicables, plus concrètes, quoi. Moi, j'avais besoin de quelque chose un peu plus concret, plus lié à la vie de tous les jours, ou quelque chose de moins théorique. Donc c'est là qu'a commencé à émerger l'idée justement de créer notre société Euritech. Au départ, avec comme idée d'être à mi-chemin entre les dernières avancées technologiques en matière d'IA, notamment en utilisant tout ce qui était autour du deep learning, et des problématiques liées plus au monde de l'entreprise, quoi. Et c'est comme ça que, une fois que moi j'ai soutenu ma thèse et que Charles a soutenu sa thèse, on a décidé de créer Euritech.
Et vos thèses, il y a un sujet dans la thèse, c'est ça? Comment ça marche?
Exactement. En fait, il y a un sujet sujet, je peux le dire, c'était, faut que je me souvienne. Le sujet de ma thèse, c'était robotique évolutionniste, influence des pressions de sélection sur l'émergence d'une forme de mémoire de travail. Donc, forcément, une thèse, c'est sur un truc très précis. Parce que si on fait de la recherche, c'est sur quelque chose qui va être précis et qui fait un petit peu avancer.
Le chemin public, quoi.
Tout petit niveau, hein. Ce que j'ai fait n'a pas révolutionné le monde de la science ni de l'IA, mais on a quand même pu l'idée.
T'as contribué un tout petit peu.
Un milliardième peut-être, mais quand même. Donc c'est quand même une certaine...
T'es dans l'humilité, t'es humble, c'est ça?
En fait, la thèse rend encore plus humble. Ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est entouré de gens qui, par définition, connaissent beaucoup plus de choses que nous sur certains sujets. C'est-à-dire que même, c'est ça que j'ai trouvé passionnant pendant la recherche, c'est que même le chercheur qui a 30 ans d'expérience, il va écouter le petit thésard qui vient d'arriver, parce que le petit jeune qui commence, il a lu des papiers que lui n'a pas lus. Ouais. Donc il a pas forcément le recul que lui a, et c'est la vision globale, mais il a un petite info
qui peut aider à décoder le truc de l'autre côté.
Et je pense que dans le monde d'entreprise, on devrait un peu s'inspirer de ça. Et souvent, moi, dans les boîtes où j'étais, je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui pensaient être les sachants et puis pas forcément avoir de...
Ouais, les apprentis, quoi.
Voilà, et les apprentis. Alors que non, on a chacun à apprendre de l'autre. Et voilà, la thèse, ça rend très humble. et c'est passionnant. Mais j'ai pas forcément envie, effectivement, de continuer dans cette partie recherche sur le côté un petit peu trop académique. Et en fait, la recherche, sans parler trop de ce sujet-là, mais il y a une grosse partie, c'est chercher des financements. Ça, on sait pas forcément, mais c'est-à-dire que, le chercheur est bien sûr payé, mais il a besoin de chercher des financements pour trouver justement des bourses de thèse pour recruter des étudiants. Et donc, il y a une grosse partie du temps d'un chercheur qui a cherché des financements.
Ouais. Un peu comme les entrepreneurs d'aujourd'hui dans l'histoire.
Exactement. C'est ça. Je crée des dossiers pour soit faire des subventions. C'est pour des subventions, pour trouver des chercheurs. C'est un peu. Et en fait, il y a énormément de compétences qu'on a quand on fait de la recherche qui peut être adaptée dans le monde d'entreprise. D'accord. C'est pour ça que les entreprises devraient prendre plus de chercheurs. Ce qui change un peu avec l'IA. Donc Une fois nos tests terminés, on a décidé de créer Euritech. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on est parti vraiment d'une techno, pas du tout d'un sujet précis. Enfin, là, maintenant, on s'intéresse au secteur de la mode. Mais quand on a commencé, c'était vraiment, OK, on a une techno, on a de l'IA, on peut en faire des choses. Mais on ne sait pas quoi encore.
D'accord. Et alors, vous avez commencé par quoi ? C'est dingue.
C'est assez marrant.
Ouais.
Donc, on s'est dit, bah, nous, on peut résoudre un peu tous les problématiques qui sont autour de l'informatique et de l'IA.
Ouais.
On a les compétences pour le faire. Donc, moi, j'avais quelques contacts dans différentes sociétés, dans ma précédente société, ou dans des personnes que j'avais côtoyées dans ma vie professionnelle. Donc, on a travaillé, par exemple, un des premiers projets qu'on a fait, c'était avec Se Loger. Voilà. On a dit, tiens, fournissez-nous des données et on va vous montrer ce qu'on peut faire. C'était très exploratoire. On était en mode un peu recherche.
D'accord. Donc, ça, c'est en juillet 2013. Ouais.
Juillet 2013, officiellement, monte. Le premier, c'était avec Cdiscount. Ouais.
Avec Cdiscount.
Avant que la boîte soit totalement créée, j'ai préparé un appel d'offre sur ça. Je me souviens d'ailleurs, c'était pour la petite anecdote, je devais envoyer un mail à la personne et je m'étais rendu compte que j'avais pas encore créé mon site internet. Ouais. Donc avant d'envoyer le mail, j'ai créé le site Euritech.
Ouais.
Donc et après j'ai pu envoyer le mail.
Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Ouais.
c'était un peu marrant, c'était le début.
Et donc là, grosso modo, vous avez une tech. Enfin, une tech, ça, hein, une solution, une solution.
On n'avait même pas vraiment de solution. On avait plutôt des compétences. Ouais. On avait des moyens de faire des choses. On avait des connaissances, mais même pas encore de tech réellement. On avait des choses qu'on avait étudiées.
Donc, grosso modo, vous scannez tout le marché possible imaginable. Voilà. Sur quoi on peut appliquer ce truc-là?
Exactement.
Et où est-ce que ça, voilà. Nous, on a ça été serait vraiment, le plus créateur de valeur, quoi.
Voilà. De toute façon, c'est un peu ce qui nous caractérise. On est un peu pragmatique.
Ouais.
Donc, on a étudié, on a fait, voilà, des sujets avec Cdiscount, avec Se Loger, avec, différentes sociétés. Et un des premiers gros projets que nous a structuré, on va dire, c'est le projet avec le groupe La Poste.
Ok.
Là, pareil, c'était une opportunité. Je connaissais des personnes, mon ancienne responsable qui travaillait là-bas, qui m'a mis en contact avec cette société-là. Ils avaient un énorme projet. Et pas juste un projet POC. Ça, c'est ce qu'on appelle POC, c'est un terme très à la mode en start-up. C'est
Proof of concept. Ouais.
Donc, c'est un peu tout rien dire. Et souvent, il y a des boîtes qui ont des entreprises qui ont des budgets pour faire des proof of concept. Plus d'un point de vue com, c'est-à-dire, OK, je mets un petit peu de budget et je vais montrer que je travaille avec des startups. Donc, ça, c'est un peu, c'est un sujet pour en parler, mais c'est un sujet qui peut poser problème. Non, c'était vraiment pour un projet, pour la mise en production d'un gros projet où on a été sollicité, pour utiliser la techno. Là, c'était même pas encore l'analyse d'image, c'était l'analyse textuelle et du stockage de gros volumes de données. Bon, sans rentrer forcément dans les détails, mais c'était un très gros sujet pour eux, un très gros projet, à notre taille d'équipe, parce que là, à l'époque, on était trois, et quand on a commencé le projet, on a été juste quatre personnes, donc c'était au tout début. Et là, c'était un projet, assez gros, qui nous a pris quelques mois pour être mis en production et qui nous a permis, en fait, de développer la société. C'est-à-dire, en gros, ça équivaut, en termes de budget qu'on a eu, à comme si on a fait une première petite levée de fonds. Sans le côté dilué. Donc ça, c'était très intéressant. Ça nous a permis de travailler sur un projet, de commencer à construire la techno. De construire cette techno et de nous commencer à avoir une première référence qui permet ensuite aux entreprises de dire, OK, on peut leur faire confiance. Ils ont fait un projet avec un grand groupe. OK. Ça a vraiment un intérêt. Enfin, ils sont sérieux. Ils sont pas juste en train de faire des choses dans leur coin. C'est pas juste quelques chercheurs dans leur coin qui s'amusent un peu. Ils ont mis en production ce sujet-là, quoi. Donc, c'est grâce à ce projet-là qu'on a pu commencer à se payer.
Ouais.
Embaucher notre premier salarié qui fait encore partie de Ritech et qui ça se passe très bien et qui était le premier à faire le pas parce que nous, on se connaissait déjà. On était du même labo. Donc, c'est. Ça va. Alors que lui, il venait pas du tout de ce labo-là. C'est la première personne c'est Arnaud, qui nous a rejoint au tout début et grâce au projet à La Poste, quoi. Et après ce projet-là, dans les étapes, on a étudié différents secteurs. On avait travaillé dans le secteur, dans l'agriculture. On a travaillé dans le secteur bancaire, dans plein de sujets. Et à chaque fois, on apportait, bien sûr, quelque chose. Mais pas quelque chose de, pour prendre un terme start-up, de disruptif.
Ouais.
Il n'y a pas de révolution. C'était intéressant. On aurait pu continuer très longtemps en mode, on va dire, agence où on fait la prestation de service. En informatique, c'est très simple. Il y a des demandes infinies. Pour moi, ça manquait de challenge. Notre objectif,
tu changes pas la face du monde, quoi.
Voilà, exactement. Et puis, voilà. pour moi, c'est pas un vrai challenge de faire ça. Et nous, dès le départ de Ritech, on savait qu'on voulait être ce qu'on appelle une startup, c'est-à-dire proposer une solution, un produit. Et on savait pas encore quoi.
Mais vous vouliez faire un gros truc, quoi.
Voilà, on voulait faire quelque chose qui a un impact réel sur lequel et qui ait sa propre autonomie. Moi, je pense que je savais pas exactement quel logiciel ou quelle solution je voulais faire, mais je voulais que je puisse créer quelque chose qui ne dépende plus de moi à la fin, quoi. Enfin, toute proportion gardée, si on prend, Apple. Voilà, Steve Jobs n'est plus, mais Apple reste. Et ce fait d'avoir créé quelque chose qui reste iconique, je trouve ça super intéressant. Alors après, je dis pas que j'ai les mêmes ambitions forcément que Apple, mais je trouvais que c'était intéressant ce côté. Voilà, ça dépend pas que de mes compétences. J'ai créé quelque chose qui a sa propre autonomie. C'est ça que je trouvais ça marrant. Et donc on leur a étudié différents domaines. Et en fait, donc on faisait pas mal de choses, on va dire, estampillées start-up. Donc un gros truc au niveau start-up, c'est ce qu'on appelle les hackathons.
Oui.
Un sujet qui veut tout et rien dire. Mais en gros, en caricaturant, c'est on paye pas des start-up pour un week-end et puis on fait de la com dessus pour montrer qu'on est innovant, cool, ouais. Et qu'on est cool et voilà, on connecte dessus. Mais parfois, ça peut donner des choses intéressantes. Donc on a fait énormément d'hackathons. Moi, ça me commençait à... je trouvais pas forcément l'intérêt, le retour sur investissement était pas forcément, il était un peu comme, c'est-à-dire que ça participe au fait qu'on parle de nous, surtout si on gagne l'événement ou des choses de ce genre-là, mais après ça se traduisait jamais entre quelque chose de concret derrière. Et en fait, pourquoi je parle de ça, c'est parce que, fin 2015, on me re-sollicite pour un hackathon. Et c'était justement un hackathon qui était pour Louis Vuitton.
Pour Louis Vuitton.
Donc là, on a remis sur notre sujet plus mode.
Ouais. Enfin. Donc, c'est combien de temps après le démarrage? C'est 2 ans après. Hein,
ouais,
c'est
2 ans après.
Là, on est en 2015.
En 2015.
Pendant 2 ans, vous vous cherchez, en fait.
Exactement. Ouais. On construit la techno, toujours pareil. À chaque fois qu'on faisait un projet,
rajoutait une brique, quand même.
On rajoutait une brique sur la techno. Et on constituait l'équipe. C'est-à-dire que nous, dès le départ, on était déjà rentable. Quand on fait la prestation de service, c'est assez facile. On se payait pas non plus des milliards d'euros.
Ouais.
Mais
ça permet de vivoter, quoi.
Ça permet de vivoter et d'embaucher des personnes, des salariés. On avait déjà nos salariés avant de lever des fonds, qui étaient payés normalement, tout ça. Et donc voilà, c'était un hackathon organisé par Louis Vuitton. Bien sûr, je connaissais la marque Louis Vuitton, mais ça m'évoquait pas grand-chose.
Ouais, toi, le luxe, ça t'excitait pas plus que ça, quoi.
Non, pas du tout, parce que je connaissais pas du tout, en fait.
Ouais.
Et donc voilà, on m'a proposé, on me dit, allez, tu veux pas participer à ce hackathon Louis Vuitton, ça va être vraiment bien, c'est super organisé. Moi, j'avais pas envie. Sincèrement,
clairement,
je voulais pas du tout. C'était un dimanche, en plus, c'était en dehors de Paris. Donc fallait que je traverse le périph, et ça, c'est compliqué. C'était à Levallois-Perret, donc à l'autre bout du monde.
Ah oui, c'est vrai.
donc j'ai dit non, j'ai pas envie sur deux jours, non, c'est pas possible. Et en fait, j'ai réussi à négocier, être membre du jury de la partie AI pour en fait un peu évaluer les startups qui participaient à ce niveau-là. Et je me suis dit, on va le faire. Je voulais vraiment pas. Et j'y suis allé, et là, j'ai vraiment pas regretté d'y aller. Parce que sans l'avoir fait, peut-être qu'on serait dans d'autres sujets où on serait peut-être pas là, quoi. Donc ça a été vraiment un élément déclencheur. Et là, je me suis rendu compte que, ils faisaient pas les choses à moitié chez Louis Vuitton, quoi. Le hackathon.
Ils se donnaient les moyens.
Ouais, ils se donnaient les moyens. À la fois, bien sûr, financiers, mais même aussi, niveau personne, quoi. Il y avait vraiment énormément de personnes des équipes Vuitton qui étaient présentes sur ce hackathon-là. Il y avait vraiment, franchement, les personnes qui comptent sur la partie innovation, techno, DSI, et puis même métier, les gens voulaient vraiment comprendre et voulaient vraiment avancer sur ce sujet-là. C'était pas juste une question de com, quoi. Moi, c'est ça un peu que je me suis dit.
C'est
juste pour la com.
Tu soulèves quand même un point important parce que moi, j'y suis passé vraiment rapidement chez Louis Vuitton en stage. Tu te rends compte quand même que c'est. Tu comprends pourquoi c'est une machine de guerre.
Ouais,
enfin, tu comprends pourquoi ils sont si forts et qu'ils font autant de chiffre d'affaires et qu'ils sont en croissance constante. C'est qu'ils se donnent vraiment les moyens et que c'est pas des lapins de 3 jours, quoi.
Voilà.
Clairement. Ouais.
Ils ont en plus dans voilà, j'ai l'impression que je travaille pas pour Vuitton.
Ouais.
Enfin, je travaille pour Vuitton, mais pas chez Vuitton.
Ouais.
Mais ouais, il y a l'innovation qui est au cœur depuis 1854. Moi, j'ai révisé. donc c'est quelque chose qui compte vraiment. Et ils se reposent pas sur leur nuit, quoi. Ils ont vraiment envie de montrer cette image d'innovation. Et c'est pas que le montrer, c'est que le puiser. Donc c'est quand j'ai vu cet hackathon là, je me suis dit, ah, c'est vraiment super intéressant. Et les problématiques qu'ils soulevaient. Parce que moi, souvent, c'était les problématiques de type hackathon, c'est un peu bullshit pour montrer, voilà, ah, tiens, on fait notre transformation digitale, je sais pas, enfin, tous les termes un peu.
Là, ils avaient vraiment des vraies problématiques, quoi.
Ouais, c'est essayer de se dire, OK, il y a plein de choses qui se passent autour des réseaux sociaux, essayer de comprendre ce qui se passe, avoir des outils d'analyse pour mieux comprendre les préférences consommateurs, enfin, tout ce qui résonne, tout ce sur quoi on travaille actuellement. Ils avaient ça en tête, même si c'était encore flou pour eux, ils savaient pas comment les appréhender, mais ils se posaient déjà ces questions-là, et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est il y a vraiment un truc là, je sens un truc. Bon, pareil, c'est une question, c'était encore dans le domaine d'intuition, et au fur et à mesure, après ce hackathon-là, bon, c'était bien passé, j'ai pu discuter avec beaucoup de personnes, je me suis dit, bah, on va creuser ça à fond sur le secteur luxe, et j'ai dit, et c'est bien quand on est dans, nous on a la chance d'être sur des sujets IA et on a accès à beaucoup de gens parce que ça commençait à buzzer au fur et à mesure en 2015.
Ouais, c'est sexy, quoi.
Voilà, là c'était très sexy. En plus on était que des chercheurs, donc on avait une certaine légitimité à parler, légitimité à parler de IA. Donc on a accès à pas mal de gens. Donc j'ai discuté, voilà, à chaque fois de changer mes idées en disant voilà, on veut peut-être travailler dans le secteur luxe et tout ça. Et là je voyais qu'à chaque fois il y avait du répondant et que les gens me disaient ah ouais, il y a vraiment un truc. Donc c'est en sollicitant pas mal de personnes, c'est là où on a commencé à construire en fait Euritech avec les idées globales en se disant OK, on va vraiment se focaliser dans le secteur luxe mode pour essayer de prédire les tendances consommateurs, notamment en analysant les images des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on avait de manière globale au départ. Et on s'est dit, bah, maintenant, faut qu'on se focalise dessus, faut qu'on mette toute notre énergie dessus. Donc on peut plus faire un peu mode prestation de service, agence. Maintenant, faut qu'on construise...
On se spécialise là-dessus.
On se spécialise, on capitalise, on transforme en fait les technologies qu'on a en solution, en application directement utilisable, par des personnes non tech.
Ouais. De façon très simple, les problématiques, c'était quoi là, de Louis Vuitton, ils comprenaient pas comment faire leverage sur les réseaux sociaux, comment analyser les réseaux sociaux et comment en tirer parti, quoi.
Voilà, de manière globale, c'était ça. Ouais. Pour l'instant, les sujets, les c'était encore un peu flou, pour eux comme pour nous. Hein. Mais c'était ça. C'est comment on a une masse d'informations énorme. Il y a des choses qui changent. C'est vrai que l'industrie de la luxe, la mode change et que
avec l'arrivée d'Instagram, bouleversé.
Voilà, tout bouleversé. Surtout là, ça a tout bouleversé dans ce pouvoir qui est un peu différent. Avant, tout partait de la marque, elle a le contrôle de tout, des tendances de de toute la chaîne. Avec les réseaux sociaux, bah, il y a
tout le monde a le pouvoir.
Tout le monde a le pouvoir, il y a les influenceurs qui peuvent popper un peu partout. Voilà, on perd un peu la main et qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, c'est vrai qu'avant, en fait, ils avaient complètement le pouvoir, ils s'achetaient les éditrices mode, grosso modo, magazines.
Tu mets une égérie, tu mets ta star, tu mets, je sais pas, ta star Sharon Stone ou je sais pas.
Dans ta pub et c'est bon, quoi.
Et c'est réglé.
Ouais.
Facile. Les réseaux sociaux ont tout changé. Donc, comment on arrive à reprendre la main et à synthétiser, monitorer tout ça?
D'accord.
C'était un peu ça le début. Donc on s'est dit, nous, OK, on va se focaliser là-dedans. Moi, je savais pas exactement la vision produit que ça allait avoir, mais on voyait quelques petites choses à faire à ce niveau-là. Donc c'est là où on a décidé, OK, bah, pour vraiment être spécialisé, se focaliser dessus, faut qu'on puisse lever des fonds, faut qu'on soit pas dépendant juste effectivement de la prestation service qui peut nous décorrélé de notre objectif principal, parce que c'est toujours compliqué de faire un compromis entre OK, je peux gagner de l'argent très court terme, mais finalement je construis un moyen terme. Donc OK, levons des fonds auprès d'investisseurs financiers et pour accélérer rapidement et pour se focaliser sur le développement de notre produit. Et c'est ce qu'on a fait c'était début 2017, fin 2017, 2017. On a levé des fonds au niveau, on a levé 1,1 million.
Ouais.
Dans ce qu'on appelle une levée de fonds seed, amorçage en gros, ce qui permet en fait de construire à partir d'une idée qu'on a et de construire le produit à partir d'une idée qu'on a pour vendre rapidement notre solution de manière voilà, c'est notre objectif, c'était de vendre une solution de manière récurrente et pas de la prestation de service quoi. C'était ça un peu le début.
Ouais. Et donc là vous le faites auprès de qui? De chez LVMH directement?
Non, alors on n'a pas de lien capitalistique avec LVMH, ça a toujours été un voilà, notre client historique au niveau secteur luxe, mais nous on a voulu rester indépendant justement
pas vous faire intégrer directement, enfin pas vous faire intégrer, mais en tout cas parce que LVMH ils ont plein de structures, ils ont des fonds, ils ont des business angels, etc.
Il y a beaucoup, il y a un fonds qui est il y a un fonds d'investissement un VC assez classique mais qui est LVMH, il y a plusieurs structures, oui, ils ont quelques budgets. Mais nous, c'est vrai qu'on a voulu quand même rester indépendant parce qu'après c'est compliqué si on veut se développer, ou alors on se développe au sein de LVMH, ce qui est déjà un terrain de jeu intéressant. Mais nous, on voulait à la fois se développer dans le secteur du luxe de manière globale et après de la mode. Et après on parle, il y a d'autres sujets sur lesquels on va s'intégrer. Donc voilà, c'est pour ça que si dès le départ on voilà avoir un lien capitalistique avec un grand groupe, ça
peut biaiser le
ça peut biaiser des ouais. choses et voilà si tu veux avoir un plus ou moins concurrent voilà
ouais, c'est bizarre
hein. Bah attends voilà
ouais on reste voilà. chacun chez soi
voilà, pour
on est indépendant
on, a,
ouais.
voilà, on est indépendant on a pris un fonds d'investissement voilà qui n'était pas
rattaché
à un grand groupe ou à LVMH. Ce fonds s'appelle Serena Capital, donc c'est vraiment un fonds qui est reconnu en France et international. En plus, ils venaient juste d'ouvrir. On est le premier investissement dans leur fonds dédié aux boîtes intelligence artificielle. Donc, nous, ça avait pas mal de sens. En plus, dans leur portfolio, il y avait des boîtes qu'on respectait beaucoup. Et puis, en fait, c'est marrant parce que, bien sûr, il y a une question d'argent dans l'investissement, mais il y a aussi une question de fuite. Parce que les investisseurs, quand on est startup, bah, on les voit forcément souvent parce que donc il faut quand même voilà s'entendre bien avec eux, avoir ouais. Partager des
c'est lourd
voilà, c'est vraiment ouais. important quoi ouais. C'est pas juste bon ok il me faut de l'argent, bon je prends n'importe qui
et,
voilà.
et d'ailleurs avec tes investisseurs tu les vois toutes les semaines, tous les mois, t'as un reporting qui est assez costaud ou...
Non, en fait, enfin, ce qui était bien, c'est que justement, nous, on avait beaucoup de choses à structurer. Nous, c'était notre première boîte, on n'avait pas non plus les réflexes. Enfin, c'est ça qui est marrant dans une startup, c'est que tu apprends chaque jour. Et moi, il n'y avait aucun domaine que je maîtrisais vraiment. Donc, notamment cette partie reporting, bah, c'était nouveau. Donc, les premiers étaient améliorables, on va dire. Pour moi qu'on puisse dire. Mais justement, ils sont là aussi pour accompagner. Il y a toute une structure. Justement, ça dépend des fonds, mais là, le fonds qu'on avait choisi à Serena, ils ont une structure opérationnelle qui nous aide justement sur cette partie financière, sur la partie recrutement, sur la partie stratégique, sur tous ces sujets-là, quoi. Et donc, on les voit une fois par mois pour en fait monitorer et savoir un peu un état des lieux à la fois financier mais aussi état d'avancement produit com tiens voilà, mais c'est plus voilà en fait faut le voir aussi comme un moyen de nous structurer nous en tant que web parce que tout est à construire et un moyen aussi bah voilà de
prendre de la hauteur ouais.
De prendre de la hauteur quoi. Donc c'est jamais juste en fait c'est rarement une contrainte, enfin c'est pas une contrainte de faire ça, c'est plus un moyen, une opportunité de prendre la hauteur, d'avoir quelque chose qui
tu vois le verre à moitié plein quoi.
Voilà. Mais ouais, moi je suis après, je suis assez optimiste et positif. Mais en tout cas,
je sais
pas.
Non, mais je pense que c'est vrai. En plus, je pense que c'est. Ouais, ça permet vraiment de prendre de la hauteur et de se structurer.
Clairement, nous, ça nous a énormément structuré et de se dire, bah ok, je suis pas le nez dans le guidon. Parce que c'est tout le problème de toute. Je pense que c'est même pas question start-up. C'est que quand t'es dans un projet au quotidien, bah,
tu vois plus rien.
Tu vois, tu dis, ah tiens, j'ai ça à faire dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure. Et puis tu oublies que bah, y a quand même le.
Une stratégie à long terme.
Voilà, long terme.
Un objectif au moins quoi.
Long terme, à start-up, c'est 6 mois, mais déjà. Ouais. C'est intéressant. Donc ouais, on a levé ça, donc ce côté on se voyait fréquemment et ils ont décidé de construire et la première année et voilà, c'était aussi bah pour recruter des gens et pas que des gens tech parce que nous là quand je parle quand on était avant de lever des fonds, on devait être je sais plus le nom mais environ une dizaine de personnes. Et on va dire que c'était plutôt un petit peu tech quoi. Enfin, il y avait que des gens tech et l'objectif de cette levée, c'était plutôt l'objectif recrutement, le principal budget, c'est pour recruter des gens. C'était trouver des personnes qui nous fassent ce pont entre la technologie et le transformer en produit. Donc, avoir quelqu'un qui a une expertise plus métier pour faire le pont. Parce que si je vends une technologie à quelqu'un, même à Louis Vuitton, tu t'adresses plutôt à t'adresser un peu à la DSI, mais tu t'adresses pas aux gens qui vont utiliser ton produit. Ouais. Nous, on voulait s'adresser effectivement au market, au merch, au produit, enfin aux gens qui, si tu leur donnes un outil d'IA, et
ouais, ils vont rien en faire.
Je m'en fous.
Et donc le premier produit que vous créez, c'est pour résoudre quoi comme problème?
Ouais. Donc, ouais, le premier produit qu'on crée, bah justement, c'est déjà, première étape, ça a été d'identifier ouais. tous les besoins, en fait. Et donc là, on a pu le faire, justement, en recrutant des personnes qui faisaient ce lien-là, assez charlotte, que nous avons rejoint justement le lendemain de la levée, qui avait pas du tout une vision, qui était pas du tout tech à la base, qui était plutôt une vision, voilà, métier, produit. On a fait, voilà, énorme d'interviews. On a interviewé des centaines de personnes à tout niveau pour comprendre c'était quoi réellement les enjeux.
Okay, c'était quoi? C'était des chefs de produits, c'était des responsables tout, marketing, de la com.
On a vu, on a vu le PDG Greg Lafayette jusqu'à des stagiaires. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu à tout niveau pour voir, à partir de la techno, qu'est-ce qu'on peut construire comme use case intéressant qui peut être utilisé chaque jour.
Et qu'est-ce qui est ressorti alors de tous ces interviews?
De se dire, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est un peu la première chose qu'on s'est dit, c'est quand on lance un produit, déjà, comment et quel produit il faut lancer et essayer de récupérer le maximum d'informations sur comment lancer mon produit, est-ce que ce produit-là va fonctionner. Voilà, j'ai je mets plein de produits pendant mon fashion show, quels sont ceux qui vont le plus fonctionner, enfin avoir des outils un peu drivés par les data baquer ses intuitions, soit prendre de nouvelles décisions, quoi. Parce que nous, on s'était rendu compte, et moi, je connaissais pas du tout ce sujet-là, c'est qu'il y a plein de prises de décisions qui sont prises plus par rapport à l'expertise et par rapport à
l'intuition.
L'intuition. Mais vu que les choses évoluent de plus en plus vite, c'est de plus en plus dur de baser ces décisions par l'intuition. Donc, nous, notre but, c'était de dire comment on arrive à un peu monitorer tout ce qui se passe. Pour prendre décision de lancement produit, c'était surtout autour du lancement produit au départ, et pour suivre aussi la performance d'un produit par rapport aux concurrents. Parce qu'on se rendait compte qu'en fait, les marques sont assez aveugles sur, sur la propre vente. Effectivement, Louis Vuitton sait combien ils en vendent, hein, mais ils savent pas forcément combien vendent les autres marques, quels sont les produits qui performent le mieux. Bon, bien sûr, ils ont des idées, mais là, d'avoir un outil qui monitore tout ça, ça pouvait sembler intéressant. Donc c'est un peu la première étape qu'on a fait, c'était comment on peut analyser Instagram. Donc on analyse des millions d'images chaque jour, plusieurs millions d'images, et on va repérer tous les posts où on a commencé par les sacs. Alors, Vuitton, c'est beaucoup les sacs à main. Donc comment on est capable de reconnaître tous les par exemple le sac Louis Vuitton Twist?
Ouais, je vois.
Parce que on pourrait se dire ok, moi je pourrais chercher avec
les hashtags.
Là, c'était assez intéressant, on a fait des études sur ça, sur la pertinence des hashtags dans Instagram. C'est pas très pertinent en résumé. En gros, si on prend un exemple, si je prends le Vuitton, hashtag Vuitton, on a vu qu'il y avait plus de 80% des posts qui contenaient le hashtag Vuitton qui ne contiennent pas du tout de produits Vuitton, quoi. Donc ça, c'est assez marrant. C'est que, en gros, du fait que les gens ont envie que leur post soit mis en avant,
oui,
soit parce qu'ils ont quelque chose à vendre, soit parce qu'ils ont envie qu'on like leur post, oui, voilà, ça c'est, pourquoi pas, et bien, ils vont mettre des hashtags qui sont populaires. Et dans le luxe, Vuitton, enfin c'est pas que Vuitton, hein, c'est Vuitton Gucci, tu vas pouvoir retrouver pour un post Vuitton Gucci Chanel, alors que c'est une photo de chien.
Ouais.
Ou une photo d'un sac Prada.
D'accord.
Donc en fait, il y a une décorrélation totale entre le texte qui est associé au poste, enfin presque totale entre le texte qui est associé au poste et l'image. Donc c'est indispensable si on veut vraiment comprendre ce qui se passe sur le réseau. On le voit de toute façon si on le fait manuellement, mais si on le fait à grande échelle, d'analyser le contenu des images, quoi. Et nous, c'était ça notre force, c'est qu'on était capable d'analyser des milliers de caractéristiques dans chaque image pour en ressortir des informations pertinentes. Et donc dans l'autre sens, les hashtags sont pas corrélés au poste, mais souvent les clients fidèles ou les clients qui portent les produits vont pas forcément dire ok, aujourd'hui je suis devant la Tour Eiffel, je porte mon sac Twist avec mes chaussures Chanel et mon jean diesel, quoi. Donc
les références. Non mais diesel, dans ta jeunesse, j'imagine que t'avais plein de diesel.
Non, pas aujourd'hui, ça. Je regarde, non, c'est bon. Voilà. Enfin, en tout cas, effectivement, toutes ces marques-là, les personnes, enfin, tous les postes les plus intéressants pour les marques, pour connaître, en fait, pour aller dans la garde-robe des clients, les personnes ne postent pas. Ou alors, c'est soit des influenceurs, ou soit ils ont envie de revendre le produit. Et dans ce cas-là, finalement, ça m'intéresse moins. Donc, et c'est pareil, c'est 70% des postes qui contiennent un produit Vuitton ne mentionnent pas la marque Vuitton et encore moins le modèle. Parce qu'en fait, via l'image, on peut aller jusqu'au même au code article dans les produits reconnaissables, surtout sur les sacs ou sur les chaussures. Tout ce qui est visuellement reconnaissable par l'être humain, nous, on va pouvoir l'apprendre à nos machines. Donc, ça veut dire que ce que les personnes font naturellement pour connaître un peu ce qui se passe sur le réseau, c'est-à-dire qu'elles vont regarder quelques influenceurs de manière manuelle, peut-être quelques centaines de posts par jour, nous, on le fait à l'échelle gigantesque et mondialement sur plusieurs millions d'images, quoi. Et donc, voilà, ça permet de monitorer un peu à l'image que fait Nielsen sur d'autres secteurs. C'est-à-dire, voilà, je sais les pourcentages de part de marché un peu de chaque marque et de voir l'évolution et d'avoir des outils d'aide à la décision, quoi.
Donc ça, c'était le premier produit que vous avez créé. Et de façon très concrète, comment il exploite derrière Louis Vuitton cette information-là?
Alors, sans rentrer dans tous les détails, c'est effectivement, pour suivre, il y a un fashion show, par exemple. Ils veulent savoir, voilà, quels sont il y a 20 produits qui sont mis en avant. Quels sont les produits qui sont les plus appréciés par Instagram? C'est pas juste pour savoir s'ils sont appréciés, mais c'est qu'il y a une corrélation forte entre appréciés et vente. C'est un peu une image, c'est un peu comme la première séance du mercredi pour les films. On sait dès la première séance si ça a marché ou pas. Ben là, d'accord, c'est un peu pareil. C'est l'étude de ces signaux faibles permet de fortement...
Ouais, lors du fashion show, si un sac ou un look est particulièrement partagé, on sait qu'on va le vendre, quoi.
Ouais, il y a une probabilité forte. Ça, c'est un exemple. Ouais. Mais ça peut être aussi pour se dire, tiens, j'ai envie de lancer... J'ai un produit qui était iconique il y a quelques années. J'ai envie de le relancer parce que je me suis rendu compte que quelques personnes avaient commencé à le porter, mais... J'ai pas d'éléments tangibles pour dire est-ce que je lance ou pas. S'il y a deux camps qui disent, il y en a un qui dit non, j'y crois pas, l'autre qui dit j'y crois. Ouais.
Bon, typiquement, Louis Vuitton, t'as le sac Noé, donc le sac saut classique qu'on voit partout et que tout le monde a eu. Si on sent qu'il y a des vintage qui ressortent beaucoup et que plein de gens le portent, on se dit on va peut-être relancer le Noé, quoi. Ouais.
Et souvent, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand on le fait de manière humaine, il y a beaucoup de biais de confirmation ou de biais. On a envie que quelque chose se passe, ou alors on le voit partout. Ouais. Enfin, c'est l'exemple.
Alors que là, la machine, elle ment pas, quoi.
Voilà. Je sais pas, qu'on vient d'avoir, je sais pas, une voiture rouge, on voit que des voitures rouges.
Oui.
Et en fait, si on le rend un petit peu plus factuel, on se rend compte que, il n'y a pas plus de voitures rouges, et c'est un biais cognitif. Et pourtant, on est persuadé, et pourtant, on sait qu'il y a ces biais-là, même sans avec ces biais-là, on est totalement, on est totalement biaisé, justement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut être vraiment une vision un petit peu analytique qui permet, justement, après, de prendre des décisions basées sur ça. Alors, c'est pas qu'on va guider les marques en disant, enfin, qu'on va imposer aux marques de dire, faut lancer ce produit-là. C'est plus avoir un élément de plus pour lancer une stratégie. Parce que c'est le fait de relancer, je sais pas, le Noé ou d'autres sacs, c'est une décision effectivement stratégique de marque qui est indépendante de juste des données, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier produit qui sert à la fois pour suivre aussi un produit, pour savoir s'il est en fin de vie, pour le corréler aussi avec des prévisions de vente, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir, parce qu'il y a, en fait, suivant les personnes qui postent, bien sûr, parce que il y a pas mal de différenciation entre, on va dire, les early adopters, les fashion forward, les médias, les posts sponsorisés, les influenceurs, les posts customers. En fonction des personnes qui postent, on peut aussi être en avance de phase sur les tendances qui commencent à émerger. Donc pour faire ça, quoi. Il y a aussi tout un sujet sur justement aller dans la garde-robe des personnes et se rendre compte en fait de faire un petit peu une comprendre qui sont réellement mes clients. Parce que souvent on se rend compte qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'on pense qui sont nos clients et les clients réellement, quoi. Parce que forcément on a une vision déformée parce qu'on va suivre potentiellement que les influenceurs ou des gens des superstars. Et finalement, les clients sont différents. Ils portent le produit pas comme je l'avais imaginé. Il y a des associations qui sont inédites. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi, de voir tout ça, quoi.
Et quelles ont été alors les autres applications au-delà de ce mécanisme-là?
Ouais. Là, quelque chose qu'on fait pas seulement pour le luxe, mais principalement plus pour le côté mode justement, c'est toute la partie en fait. Market trend, c'est-à-dire que là on n'étudie pas un produit iconique en tant que tel, mais plus des tendances marché de fond, quoi. En gros, savoir sur différents éléments qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Je sais pas, sur les différentes textures. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était sur, voilà, le léopard ou, sur, les cols en V. Enfin, je peux dire tout ce qui, tout ce que les marques ont besoin pour, créer leur plan de collection. Et ben, c'est comment on peut arriver à avoir une prédiction de 6 mois, 9 mois, 1 an en avance pour se dire, est-ce que, je sais pas, sur la texture léopard, est-ce que c'est, ça va être en croissance, est-ce que ça va faire plus 35% l'année prochaine, plus 10%, ou en fait ça va totalement s'effondrer, quoi. C'est un petit peu, voilà, c'est ces études de tendance marché, c'est vraiment l'outil qu'on vient de sortir là cette année là et qui intéresse énormément les marques moins luxe, parce que le luxe, c'est, elles sont plus en avant de la tendance, elles vont pas,
celles qui amènent la tendance, en
voilà,
fait, ouais.
Potentiellement amène la tendance, ou qui ont envie d'être justement avoir un positionnement pas juste de follower. Donc si je reprends le voilà le sujet léopard, pour bon, c'est 2018, hein, je suis désolé, mais voilà, je vais pas dire les prochaines, hein, c'est
ouais. Et donc
et voilà, c'est, elles vont pas se dire bah tiens, il y a plein de léopards, je vais faire un léopard. C'est peut-être justement, il y a plein de léopards, je vais faire du tigre, je
crois. D'accord, ok. voilà. Ouais, c'est rebondir. Ouais,
voilà,
d'accord,
c'est rebondir. Donc en tout cas, nous, ça reste là plus à des marques qui sont pas forcément à position dans luxe, mais qui ont besoin d'être dans la création de plans de collection pour savoir un petit peu les tendances émergentes et savoir ce qui se passe. Donc à la fois en termes, donc là nous on va analyser tout ce qui est relatif à la mode. Donc là je parlais de texture, mais ça peut être de forme, d'attributs, de tout ce qui est visuellement reconnaissable. On va pouvoir les couleurs par exemple aussi.
Ouais, ce qu'aiment les gens en fait, c'est
ce qui aime les gens. Et aussi il y a quand même aussi une dimension de prédiction. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté état des lieux. Qu'est-ce qui marche actuellement,
ça, à l'instant T, c'est une photo.
Ouais. Au niveau France, mais au niveau monde, au niveau France, enfin au niveau géographique, mais aussi essayer d'avoir un pouvoir prédictif. Et en fait, ça, on arrive à l'avoir justement, comme ce que je disais, c'est avec l'identification de différents panels. Donc se dire, ok, on a d'abord on a identifié des personnes fashion forward. Donc ça, en gros, c'est facile, c'est de dire sur une tendance qui s'est avérée, genre bon, je reprends mon fameux exemple léopard, quelles sont les personnes qui ont été le plus en amont de cette tendance-là. Donc ça nous permet de déterminer automatiquement des gens qui sont factuellement en avance de phase, quoi. Et donc d'étudier la propagation de ces tendances-là, de personnes qui sont en avance de phase, vers les voice of customer. Et avec ça, on arrive à avoir des prévisions de jusqu'à un an.
Ouais.
Totalement factuel. De toute façon, nous, on n'a pas pour ambition d'être expert à la mode, mais expert dans l'analyse de données pour le domaine de la mode, quoi.
D'accord. Donc, mais ça, la sélection des personnes, enfin, des comptes qui sont fashion forward, c'est ça, ils sont sélectionnés par la machine, encore une fois. Hein. C'est pas sélectionné par Louise qui est au marketing, enfin, qui est, je sais pas.
Qui est quelque part, en vrai.
Qui est quelque part.
Non, non. No offense sur le parti marketing, mais non, bien sûr, non, mais c'est justement, nous, on essaie d'être vraiment avoir une vision analytique,
très pragmatique, c'est la machine,
ce qui se passe. Et justement, et notre but, on pourrait se dire, ah, ok, mais si vous faites cette salade, tout est déjà calculé, il n'y a plus de place à la création. Nous, au contraire, on pense que grâce à ces outils-là, en fait, ça peut permettre justement de prendre plus de risques. Parce que justement, on a étudié le marché. Il y a certaines marques qui vont se brider sur, ah tiens, est-ce que je lance le léopard? Ah, peut-être pas, parce que c'est trop, c'est peut-être, voilà, ça change totalement de mon univers, j'ose pas. Alors que là, nous, on peut avoir justement, avec nos outils, des moyens de se dire, ok, bah en fait, il y a un réel marché, on voit que c'est en croissance. Donc, finalement, permettre aux marques de prendre quelque chose plus osé, quoi.
Ouais, d'accord, ok. Et comment vous vous différenciez? Parce que moi, je sais, j'avais interviewé Tag Walk, j'avais interviewé Paul Mugino aussi de...
de chez Daco, ouais, je connais.
De chez Daco. Parce que tous ces gens-là travaillent un petit peu sur ces mêmes sujets de prévision de tendance, de prévision de pricing, etc. Quelle est votre différence?
Alors, je pense, si je prends par exemple Daco, déjà ils sont faits effectivement
rachetés par vente privée. VP, pardon. Ouais.
Eux, c'était un positionnement un petit peu différent. C'était vraiment sur plus le positionnement prix, donc un peu savoir sur tel type d'élément, sur la jupe rouge, combien elle est vendue.
Ouais.
Donc on est plus dans la tendance, on est plus dans le positionnement une fois que le produit est créé. Ouais. Nous, on est vraiment en amont et de la chaîne. Ouais. Et pour avoir des informations au moment de la création du plan de collection. Quoi. Mmh. C'est des marques qu'on fait avec pas mal de marques. Si on prend Tago, là c'est plus effectivement de l'information un peu plus quali sur ce qui se passe sur les fashion shows. Mmh. Nous, on analyse à la fois ce qui se passe sur les fashion shows, mais sur toute la, pour avoir ce pouvoir en fait prédictif, on analyse à la fois les fashion shows, mais la réaction au niveau de ces fashion shows-là, la réaction au niveau des influenceurs, la réaction au niveau des customers. Et ça, pour ça, notre différenciation, c'est que bah, déjà, c'est technologique, c'est qu'on est capable d'analyser ces données-là, ce qui n'est pas le cas d'autres acteurs. Okay. Et ensuite, on l'a intégré, c'est pas juste une techno, c'est aussi on l'a intégré au sein d'une plateforme directement utilisable, où il y a des qui est directement actionnable, quoi. Il y a des informations directement actionnables.
Et concrètement, les gens, vos clients, qu'est-ce qu'ils achètent quand ils achètent la solution Euritech?
Alors, ils achètent une plateforme qui est utilisable quotidiennement. Enfin, c'est-à-dire que c'est une plateforme disponible sur Internet en mode
cloud,
SaaS, voilà, software as a service. Donc, ils ont un abonnement, ils peuvent s'en servir chaque jour. Et on peut les accompagner dans leurs problématiques stratégiques. C'est-à-dire que, en gros, la plateforme donne les informations, mais nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est justement, on part de leur, avant de leur vendre la plateforme, on essaie de bien comprendre quels sont leurs enjeux à court terme, moyen terme, et voir comment, via notre solution, on peut apporter des réponses, quoi. C'est pas juste, OK, on vous donne cette plateforme-là, et puis vous allez voir des chiffres de plus 3%, plus 4%. Non, c'est comment on s'intègre vraiment dans leur quotidien, dans leur utilisation du quotidien, et comment on répond aux enjeux du moment. Ça, c'est pas, c'est cette partie, on va dire, onboarding, qui est très importante pour que cet outil-là soit utilisé et en fonction des personnes, quotidiennement, hebdomadairement, pour lors de prise de décision importante, quoi.
Et est-ce que vous avez la possibilité aussi de voir le retour sur investissement, des investissements auprès des influenceurs? Vous intégrez aussi cette partie-là?
C'est un des gros sujets. C'est pas forcément quelque chose de difficile, parce que lorsqu'on prend la décision, par exemple, c'est de lancer un produit. Ouais. Effectivement, nous, on a une part de responsabilité, mais est-ce qu'on peut s'accorder toute la part de responsabilité, donc pas forcément. Après, ce qu'il y a, c'est que on peut se dire, ce qu'on essaie de faire sur la partie ROI, c'est de montrer que, ok, vous pensiez que ce produit-là, vous allez le vendre, vous allez en vendre 10, bah nous, on vous dit, bah vous allez en vendre 20, plutôt 20, parce que vu les perspectives croissantes qu'on voit, c'est plutôt 20. Donc là, on peut se dire que par rapport aux 10 que eux voulaient mettre en place, bah voilà, notre ROI est sur les 10 en plus, quoi. C'est des choses comme ça, quoi. Mais c'est effectivement un sujet qui permet de montrer aux marques qu'il y a un intérêt, quoi.
Ouais. Et alors, vous êtes 35 personnes aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que fait tout ce petit monde?
Bah, je me demande justement, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on a un cœur techno qui reste assez important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que faut déjà reconnaître proactivement tous les nouveaux produits. C'est-à-dire que là, on est dans le secteur luxe, mais aussi dans le secteur sportswear. Donc, par exemple, on travaille sur des marques sportswear. Donc, c'est reconnaître tous des modèles de chaussures de manière proactive sur les réseaux. Donc, ça nécessite, voilà, plusieurs centaines de produits qu'on apprend. Donc, on a en amont une équipe recherche qui essaye de rendre de plus en plus performants nos modules de reconnaissance d'image.
Donc grosso modo, en fait, on montre une image à la machine, c'est-à-dire que la nouvelle basket qui vient de sortir, Adidas, Nike ou Umbro, je sais pas pourquoi je dis Umbro, pareil, c'est comme disait Alter tout à l'heure, je prends la photo, j'ai une photo, je la prends dans tous les sens, en long, en large, en travers, par-dessus, par-dessous, j'apprends ça à la machine, c'est ça, hein, ou je dis n'importe quoi?
Non, c'est exactement ça. Et justement, une des problématiques, c'est d'en apprendre beaucoup, mais d'en apprendre avec le moins d'images possible. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est pour ça qu'on a besoin de recherches assez pointues. C'est, en fait, notre ambition, c'est de pouvoir reconnaître à partir d'une seule image.
D'accord. En gros. Okay.
Pour l'instant, sur certains modèles, on arrive avec quelques dizaines d'images. Et en plus, ce qui est intéressant, et ça, c'est lié en fait à la technologie qu'on utilise, c'est pas forcément des données qui doivent être formatées. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, tiens, si je veux reconnaître la Jordan 3, j'ai pas besoin d'avoir la Jordan 3 en vert, 10 modèles en vert, 10 modèles en bleu. Non. En fait, moi, on utilise directement, on demande même pas aux marques en fait de l'information.
Images, ouais.
On récupère les images sur Internet et pas forcément de manière très formatée. Faut juste qu'il y ait plusieurs fois le même produit dans des contextes différents.
Et grosso modo, c'est un JPEG, un PNG. Et ouais,
tu non, il n'y a pas de format en disant il faut une résolution 12 millions fois 12 millions. Non, c'est, ça va être du 640, enfin des images de qualité diverse.
Donc il n'y a pas
diverses.
Trop de contraintes finalement.
Ouais, voilà. Et nous, ce qu'on tend à voir, c'est voilà, de reconnaître le produit via comme un être humain finalement. C'est-à-dire au final, nous, on n'était pas trop experts de sacs de luxe. Maintenant, moi, je reconnais quelques marques de sacs de luxe.
C'est devenu un vrai sniper.
Voilà, un vrai sniper. Bah, je vois dans la rue, Neverfull, Twist, Épinoir, des métalliques, Code Skew. Non, je ne mets pas encore tous les Code Skew, parce qu'il y en a quelques-uns. Mais en tout cas, c'est un peu comme nous. C'est ce qui est assez marrant. Ça, je reviens sur la partie IA, parce que bon, c'est passionnant. C'est que nous, on sait reconnaître un sac, on sait reconnaître quelque chose, mais on ne sait pas exactement qualifier comment on le reconnaît. Quelles sont les caractéristiques qui permettent de reconnaître un... Enfin, si je prends un exemple, pas sur un sac, mais sur un chat. Si je te demande, bah, décris-moi un chat, comment tu sais que c'est un chat?
Il a des moustaches, des petites oreilles, une queue, quatre pattes.
Voilà, mais si je te montre la moitié d'un chat, tu sauras que c'est toujours un chat. Donc, il a pourtant deux pattes. Ouais. Mais si tu montes un morceau d'un chat, tu sais que c'est un chat. Donc, en fait, on ne sait pas décrire comment on sait reconnaître un chat. Et c'est pareil pour la machine, en fait. On sait que la machine, elle reconnaît à 99% le sac Louis Vuitton Twist, mais on ne sait pas quels sont les éléments qui permettent de savoir que c'est un Twist. Quoi. Ça a un côté assez marrant. Et donc, ouais, c'est vraiment le même principe que nous, comment on reconnaît, c'est que nous, on reconnaît à partir d'un élément. C'est vrai que je pense que si on voit un chat, enfin, je crois que c'est ça, un gamin, il voit deux, trois chats, il arrive à...
Il a
comprendre que c'est un chat, quoi. Et ben, nous, notre but, c'est d'arriver à ça. Pour l'instant, on est plus à l'ordre de dizaines, quoi. Mais ça, c'est un enjeu énorme parce que finalement, après, tu peux directement te connecter au site e-commerce et dire, tiens, il y a Jordan qui a ressorti la version Jordan 4. Moi, je parle de Jordan, je suis un peu fan.
Ouais, t'en as au pied d'ailleurs, non?
Ouais, tout le temps. Là, c'est le modèle 97. Pardon.
Ah, ouais, t'es un foot basket, ok.
Et donc voilà, donc, d'ailleurs, j'ai loupé la nouvelle réédition de Jordan 4. Mais donc, grâce à notre outil, j'aurais pu voir qu'elle sortait. Mais en gros, je me connecte au site Jordan, je récupère la fiche produit et je suis capable de reconnaître dans n'importe quelle condition sur Internet. Sur les réseaux sociaux.
Okay.
C'est un peu ça qu'on entend. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une équipe de recherche à ce niveau-là. Après, il y a toute la partie industrialisation, justement pour se dire, de manière proactive, je reconnais les nouveaux produits, les nouvelles tendances, textures, quand on dit tendance, c'est les combinaisons de critères qui vont être, je sais pas, le short cycliste, tous ces éléments-là. Il faut que j'arrive à reconnaître de plus en plus. En plus, nous, on était sur le luxe, mais après, on veut ouvrir sur la fashion, sur la cosmétique, sur la déco. Enfin, on a plein de verticales comme ça.
D'accord.
Donc, il y a une équipe à ce niveau-là. Il y a une équipe pour déployer ça sur le cloud. Donc, en fait, parce que ça nécessite beaucoup de machines pour analyser ces millions d'images-là. Mm-hmm. Et après, il y a toute une équipe produit pour créer le produit en tant que tel et travailler sur l'ergonomie, travailler sur comprendre les enjeux métiers pour le transformer en solution directement utilisable. On a une équipe sales forcément, et une équipe aussi justement qui accompagne les clients dans leurs problématiques,
l'information,
dans
comment exploiter, comment lire.
Donc c'est pour ça quoi, on a une équipe assez différente qui était que tech et maintenant qui est à la fois tech, expert dans la partie mode. Voilà, on a des gens au niveau marketing, communication aussi pour aider à nous faire plus connaître. Et voilà. Et notre ambition, là, c'est maintenant aussi le développement à l'international, notamment aux États-Unis, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se développe. Voilà.
D'accord. Et vous avez un bureau aux États-Unis ou pas encore?
On n'est pas encore de personnes
physiquement là-bas.
Physiquement là-bas. On y va souvent. On a déjà des clients aux US, on a déjà des clients au Japon. Donc on est déjà international au niveau client. Mais notre ambition là pour fin d'année, c'est d'accélérer à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment
Et aujourd'hui, vous fonctionnez sur quoi? Toujours sur la levée de fonds de 1,5 million de 2015 ou vous rentrez beaucoup de chiffre d'affaires et vous autofinancez ou est-ce que vous levez encore, etc.
Effectivement, la levée nous a permis au départ. Après, on est justement, vu qu'on a des clients, c'est toujours pas mal d'avoir des rentrées d'argent.
Ouais, et là, on est en train de financer.
Voilà. Et on est en train de finaliser une levée de fonds pour cette partie, justement, déploiement.
Et votre solution est accessible à tout type de clients, de moi avec ma boîte à LVMH, ou c'est quand même des investissements qui sont très importants?
Non, en fait, on a plusieurs offres. Mmh. Alors, au départ, on a beaucoup plus travaillé effectivement des grands groupes pour co-construire parce que ils avaient le temps et
les ressources,
des ressources pour nous aider. Là, on a des clients qui sont de taille plus petite. Et on, là, on réfléchit justement à une offre vraiment pour vraiment les... pour tout le monde. On en parlait justement
tout à l'heure,
il y a quelques heures, sur proposer une offre, justement avec, ne serait-ce que notamment, oui, pour aider à rechercher plus facilement l'information sur Instagram, parce que tout le monde est sur Instagram, enfin surtout sur la partie fashion, enfin dans le secteur fashion, mais c'est assez difficile de s'y retrouver,
de sentir
la bête, de faire la synthèse, de se dire, bah, tiens, je cherche toute la... bon, je reste sur mon léopard, mais je cherche tous les produits léopard, bah, comment on fait si je tape hashtag léopard?
Non, et puis suivre son produit, tout simplement.
Sur son produit, sur les tendances marché, dire, ah, tiens, j'ai envie de faire tel type de produit, qu'est-ce qui ressemble à ça, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que, voilà. Donc, il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là, quoi.
Alors, parlons de ma marotte, de sustainability.
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est, sustainability? Non, mais alors, comment Euritech peut... Déjà, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Comment Euritech peut aider cette industrie à avancer dans le bon sens au niveau de ça? Quels sont concrètement les... Est-ce que les clients, qu'est-ce qu'ils en pensent concrètement, les clients de la sustainability? Je voyais des études qui disaient que 7% des gens achetaient parce que c'était sustainable, mais en fait, les gens, quand il s'agit d'acheter, ils regardent plus le prix et le style qu'autre chose. La sustainability, ils s'en foutent un peu. Développe là-dessus.
Alors, je pense qu'on est vraiment au début d'un changement à ce niveau-là. De plus en plus de personnes se rendent compte effectivement que le secteur de la mode, c'est pas le moins polluant. De ce que j'avais compris, c'était la deuxième industrie la plus polluante du monde. Et que, notamment quand on entend des choses, des sujets autour de H&M qui avait pour plus de 4 milliards de stocks d'invendus sur un an. Enfin, j'ai leur lu plusieurs fois, c'est même pas possible. Il y a des prises de conscience, et même on l'a vu au niveau... législatif, là, il y a une loi qui devrait passer sur le fait de pouvoir détruire des denrées non alimentaires. Je crois que la France est assez en avance sur ça. Donc, il y a une réelle prise de conscience à ce niveau-là. Et je pense qu'on est vraiment au début et que il y a des choses qui étaient possibles maintenant, mais qui seront plus possibles sur la destruction de nos stocks. Et puis, même d'un point de vue économique, pour les marques, c'est quand même jamais bon.
C'est une aberration.
C'est une aberration. Donc, nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut se dire, on peut, grâce à notre outil, avoir proposé de nouveaux produits qui sont pas là, mais c'est aussi de se rendre compte de produire mieux et d'arriver à mieux ajuster les stocks et arriver au mieux, justement, au minimum d'invendus. C'est pour ça que le fait d'arriver à quantifier, analyser cette prévision de tendance, ça va totalement dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que on sait que plus on sera précis dans ces prévisions de tendance, plus on va ajuster au mieux les stocks. Donc, grâce à nos solutions, il y a vraiment, on peut vraiment agir sur ce côté produire mieux, donc produire moins, arriver à moins stock.
Rêve, quoi. Ouais.
Voilà. Donc, ça passe par une partie logistique, mais ça passe aussi sur une meilleure prévision le plus tôt possible de ce qui va se passer. Et je pense que ce qui fait que ça va marcher, c'est que dans tous les cas, les marques n'ont pas envie de se retrouver sur stock parce que ça a un coût. Donc même si le côté sustainability ne prend pas forcément, déjà il y aura un enjeu de produire moins. Ouais. Et puis si en plus il y a ce côté, je peux plus détruire, il faudra trouver un moyen. Donc nous on s'inscrit beaucoup dans ça et vraiment on pense que par rapport à ce qu'on développe, on contribue à un mieux à ce niveau-là. Quoi.
Et quand vous analysez Instagram, est-ce que c'est une tendance de fond qui s'inscrit vraiment sur la enfin, est-ce que la machine est capable d'analyser ça, quoi?
Nous, justement, on est en train de sortir un article dessus.
Ouais.
Donc, je sais pas. Il sortira bientôt. Donc, j'ai pas encore, je pense que justement, c'est en cours et que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Justement, on aura ces infos-là.
D'accord. Vous êtes en train d'écrire un article développer, hein. On pourra sortir l'épisode un peu plus tard, hein, quand il sera, on n'a pas d'urgence. Célia, tu veux en parler, Célia, j'ai l'impression, Ouais. Donc là, je vous présente Célia.
Bonjour.
Tu peux te présenter en deux mots, Célia?
Alors, je suis Célia, la directrice marketing de Euritech.
D'accord.
Et
responsable sustainable.
En fait,
t'es très sensible à ça.
Je me permets d'intervenir parce que c'est vrai qu'on est en train de travailler justement sur un sustainability report qu'on va sortir début juillet. L'idée, c'était en fait d'analyser les comportements en ligne, de savoir si c'était quelque chose qui était répondu ou pas. Donc toujours la corrélation entre est-ce que les gens en parlent, est-ce que les gens achètent. Enfin, ça se transforme en comportement d'achat. On est encore en train d'analyser les conclusions, mais on a fait une différence entre l'Europe et les US. Mmh. Et on voit qu'aux US, c'est une tendance qui est beaucoup plus vintage. Je pense que c'est intéressant, notamment de voir avec des marques comme ThredUp ou Reformation, donc qui sont beaucoup plus sur la tendance vintage, recycle, upcycling. Alors qu'en en Europe, pardon, on va plus être sur la partie slow fashion, vegan, des choses qui sont peut-être plus retour à l'artisanat.
D'accord.
C'est intéressant de voir, je pense, les différences entre les deux.
D'accord.
Entre les deux régions.
Et ça, typiquement, c'est la machine qui est capable de sentir l'air du temps et la tendance du moment, quoi.
Alors, pour cette analyse, on s'est basé sur les hashtags. Donc, on a pris plus de 150 hashtags dans 20 millions de posts sur les trois dernières années pour voir ce qui ressortait. Et en fait, on fait des corrélations entre hashtags et les produits qu'on suit. Donc, dans les images, pour D'accord. avoir une pertinence qui est enfin, au-delà de 90% sur nos données qu'on trouve.
Excellent. Très bien.
Je repasse les micros.
merci beaucoup. Non, la question suivante.
voilà. C'est coupé dans notre...
non, donc, on a parlé de sustainability, etc. Non, une question qui me venait, c'était Instagram. Vous bossez avec Instagram directement? Vous avez des relations? Vous les rencontrez, j'imagine, hein?
Oui, on les rencontre ouais. À la fois sur la partie, parce qu'on connaît à la fois des gens sur la partie recherche, mais aussi sur comment, au niveau partenariat, on peut faire des choses ensemble, parce qu'on est assez complémentaires. Donc, effectivement, nous, on est beaucoup sur Instagram, mais on essaie aussi de développer... notamment sur la partie Chine, on travaille avec d'autres réseaux pour avoir cette couverture mondiale, quoi.
Mais...
parce que bon, c'est un sujet qui intéresse étonnamment beaucoup d'acteurs, c'est le réseau chinois, le marché chinois. Donc notre but, c'est effectivement d'intégrer les données Instagram, mais aussi d'autres réseaux type Weibo en Chine ou TikTok, tout ça pour avoir cette vision synthétique.
Ouais, donc vous venez pluguer votre solution sur tous les réseaux finalement.
Tant qu'il y a de l'image et vidéo, on travaille aussi pas mal parce qu'il y a de plus en plus de contenu vidéo aussi. Voilà, nous on peut l'analyser et avoir une vision un petit peu globale. Et ouais, le marché en Chine intéresse beaucoup, il y a pas mal de...
Et alors, qu'est-ce que vous répondez? J'imagine que vos détracteurs vous disent toujours ça va être l'uniformisation de la mode, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est le cas vraiment? Ou est-ce que vous... Enfin, c'est quoi votre réponse?
Bien sûr, oui, tout va être uniformisé. Non, bien sûr. En fait, ce qu'il y a, c'est que justement, suivant le positionnement de la marque, on va pas chercher du tout à avoir les mêmes types d'informations.
Ouais.
C'est-à-dire que si on a une marque de luxe, on va être en amont des tendances. Il y a des marques qui vont être plus dans les tendances qui vont digérer. Et justement, nos outils sont beaucoup plus précis que l'analyse qu'on peut se faire un peu humainement, où on va se dire la tendance va être le bleu. Nous, on peut aller beaucoup plus précisément dans les détails. Et justement, pareil, nous, c'est pas nous qui prenons la décision de pour les marques de dire OK, faites ça. Ça donne plus d'informations aux marques pour justement aller plus loin et pour créer de choses différentes. En minimisant le risque. C'est plus minimiser le risque et se dire j'ai plus d'opportunités, d'autonomie pour créer de nouveaux sujets. Parce que moi j'étais étonné sur ça, c'est que finalement ce qui est logique, parce que le lancement d'un produit, ça a un coût, et que parfois on va se dire finalement je vais refaire un peu ce qu'on a fait l'année dernière. On me dit que la tendance c'est le bleu, je vais peut-être faire ça, mais je vais pas prendre trop de risques sur le reste. Moi si je n'en vends pas, je suis un petit peu, c'est un peu compliqué. Alors que là, avec nos solutions, on peut aller plus loin et se rendre compte qu'il y a un... OK, que c'est peut-être pas un marché à des millions, mais il y a un marché sur le jaune, je sais pas quoi. Donc voilà, donc justement, je pense que c'est exactement le contraire qu'on va faire avec ces outils-là. Mm-hmm. Et toujours pareil, c'est comme tout outil, c'est une aide à décision. Ça prend pas la décision à la place de la marque, parce que ça dépend du positionnement de la marque, ça dépend de voilà, de d'énormément d'informations. Quoi, c'est...
Et alors, c'est on s'est rencontré via DLX, hein, via Guillaume Delacroix. Et je sais qu'il vous accompagne sur la partie communication. Pourquoi c'est important de communiquer? Enfin, pourquoi c'est important de, voilà, d'aller chercher un bureau de presse pour exister? C'est vraiment important dans votre stratégie de com? Parce que comment vous avez réussi à acquérir tous vos clients jusqu'à présent, et pourquoi, à partir de maintenant, vous décidez de faire un peu de RP?
Nous, alors, au départ, on était reconnus surtout sur notre partie IA. Parce qu'en fait, on est assez présent sur le... dans l'écosystème intelligence artificielle, parce qu'on connaît beaucoup les labos, ben on en vient, et on donne aussi pas mal de cours dans des écoles, dans différentes écoles.
Toi-même, tu donnes des cours?
Oui, justement, là j'avais donné quelques cours à HEC, là on va commencer un programme à Sciences Po d'IA, donc voilà, en septembre, avec Célia, justement on va parler un petit peu de l'IA dans ce secteur marketing, et donc justement un peu aider les...
Quel est l'intérêt de faire ça pour vous?
Alors, pour plusieurs choses. Nous, déjà, en fait, on faisait... Donc, Charles, m'associe, le faisait depuis quelques temps. Plus, là, c'était plus, voilà, cours de deep learning à Polytechnique. Donc, des choses plus
techniques.
Plus très techniques. Ouais. Bah, nous, déjà, en termes de légitimité et de recrutement, tout simplement, aussi. C'est que le fait de... ça nous permet de, voilà, de recruter des gens vraiment très, très pertinents dans ce domaine-là. Et voilà, de... Cette légitimité qu'on avait autour de l'IA, ça nous a permis justement d'avoir nos premiers clients. Ils se sont dit, OK, bon, on n'a pas de référence dans la mode, mais ils ont l'air d'être référents sur cette partie IA. Donc, je vais peut-être les écouter. Ils ont peut-être des trois trucs à dire. Ouais. Voilà. Nous, on veut avoir la même légitimité maintenant dans le secteur de la mode. Et c'est pour ça que justement, l'accompagnement presse, ça nous permet aussi d'être référents plus en termes de équipes IA qui font de la mode, mais de référents dans l'analyse des informations dans le secteur de la mode, quoi. Donc c'est vraiment ça, ce changement qu'on veut faire, à la fois en France, mais bien sûr aussi à l'international. On a pour ambition d'être leader sur ce sujet-là, et donc on a besoin maintenant de prendre.
Et vous l'êtes aujourd'hui?
Pour l'instant, c'est encore un marché émergent. Il y a des acteurs, en fait, historiques sur ce sujet-là, mais dans cette combinaison d'informations qu'on a, c'est-à-dire d'analyse des réseaux appliqués dans le secteur de la mode pour prédire des tendances de marché avec des données factuelles, on pense qu'il n'y a pas forcément énormément d'acteurs à ce niveau-là. Donc, en tout cas, le marché est maintenant, et c'est pour ça que c'est maintenant qu'on doit se construire cette image-là qui c'est important de faire appel à une agence réputée comme DLX.
Ouais. Et la vision pour Euritech dans les années qui viennent, c'est quoi? Tu parlais d'Apple tout à l'heure.
Ouais, là, c'était Apple, effectivement, c'est une, même si c'est pas mon modèle en tant que tel, c'est bon, ça parle à tout le monde. Nous, c'est d'être un petit peu vraiment comme était Nielsen le référent sur dans la grande conso, nous, c'est vraiment être le référent dans le secteur luxe et mode, dans l'analyse des données marché, mais aussi l'ouvrir à d'autres verticales.
Mais est-ce que, par exemple, le design, la déco, c'est des sujets aussi auxquels vous intéressez?
Ouais, exactement. Là, pour l'instant, on a commencé sur le luxe. On a voulu vraiment commencer par le luxe, parce que déjà, en France, sur le secteur du luxe, on a deux, trois trucs à dire au niveau international, surtout quand on commence à travailler.
On a une petite légitimité.
Voilà. C'est une des rares secteurs, on peut aller aux US et ils nous disent, ah, ok, bon, on va peut-être vous écouter.
Ouais, c'est
donc c'est une des raisons aussi pourquoi on a choisi ce secteur-là. Après, par extension, effectivement, le secteur de la mode, et à chaque fois, on travaille avec les acteurs clés. Là, on va, fin d'année, on va ouvrir pour tout ce qui est autour de la beauté. Là aussi, en France, on a quelques arguments.
Ouais, quelques belles marques, ouais, quelques beaux groupes. Ouais.
Donc ça, c'est toujours pratique. Et ensuite, voilà, les acteurs, les sujets autres, ça va être notamment effectivement autour de la décoration. On est déjà en discussion, mais même si notre objectif, c'est plus de le développer ça en 2020. C'est important aussi bah, dans
c'est des relais de croissance. Ouais.
Bah, c'est une croissance et justement pas avoir trop de...
Tous les deux dans le même panier.
Voilà. Ouais. Et puis aussi pas développer tout en même temps. C'est un des sujets, ouais. Ça, pour toute boîte qui se crée, c'est rester focus et développer d'abord une première structure et puis au fur et à mesure
très bien.
S'étendre. Okay. Quoi.
Et qu'est-ce que tu ferais différemment alors, dans toute ton épopée
Qu'est-ce que je ferais différemment? Effectivement, c'est-à-dire que quand on crée une société pour la première fois, effectivement, il y a des milliards de choses qu'on n'imagine pas. Donc, on apprend chaque jour
sur le tas.
Sur le tas, quoi.
Et dans la douleur.
Donc, effectivement, je pense que si j'avais à remonter maintenant, j'irais beaucoup plus vite. Mmh. Je pense qu'on a passé pas mal de temps justement à explorer au départ. Mais en fait, je me rends compte que même on n'aurait peut-être pas gagné tant que ça parce que faut que le marché soit là. C'est-à-dire que je pense que si on avait développé Euritech et qu'on avait commencé à faire être dans le secteur de la mode en un an ou deux ans avant, le marché n'était pas non plus mature aussi. Donc c'est aussi ça qui est assez marrant. C'est pas parce qu'on a la meilleure techno, le meilleur projet, si on n'est pas au bon moment.
Bon timing, ouais.
Bon timing, ça marche pas. Si... Donc ça, c'est
surtout. Tu penses que. Comment dire qu'est-ce qui a fait que ça s'est déclenché? C'est quoi le moment où l'AI est devenue sexy, quoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça?
Alors ça, là, clairement, ce qui a déclenché l'AI, c'est effectivement cela. Tout ce qui est autour de ce qu'on appelle le deep learning. Donc ouais. Ça c'est il y a vraiment une innovation technologique.
Oui, il y a une découverte.
Il y a une découverte. Alors bien sûr, comme toute découverte, c'est pas il y a avant il y avait rien et puis à un moment il y a le deep learning. Le deep learning et voilà, il y a toute une historique qui fait que c'est pas arrivé en un jour. Mais c'est ça et tout ce qui a été autour des applications, notamment via Google et Facebook, qui utilisent de manière extrêmement massive tout ce qui est autour du deep learning. Mm. On n'a pas beaucoup parlé de. Enfin, ils utilisent franchement partout maintenant deep learning. Ça va être dans les outils de traduction automatique qui sont maintenant impressionnants et en quelques temps. Enfin, avant c'était vraiment n'importe quoi, c'était du mot à mot. Maintenant, faites des tests sur la traduction Google Translate, c'est vraiment impressionnant. En anglais français, bon après par toutes les langues, mais anglais français ou même sur YouTube, la génération de sous-titres automatiques.
Ouais, c'est vrai que c'est fou.
C'est impressionnant. Et même récemment, je regarde ça. Ça marchait très bien en anglais, maintenant ça marche très bien en français, mais on peut déjà même sous-titrer quelque chose en français puis le traduire automatiquement en anglais et ça a du sens encore. Donc c'est vraiment une fois qu'il y a eu cette découverte là, ce qui a été différent de peut-être d'autres découvertes, c'est que ça a directement été utilisé rapidement, notamment par avec les investissements énormes de Google, Facebook, Microsoft et tous les acteurs aussi en Chine. Ça a été très utilisé rapidement. Donc c'est eux, ils ont énormément communiqué, surcommuniqué avec notamment aussi AlphaGo sur AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go. Ouais. Ça c'était aussi avec des outils de deep learning et d'autres. Donc c'est vraiment une innovation technologique qui a permis ça et on s'est rendu compte que cette innovation technologique, on parlait juste d'IA au départ, mais elle s'est spécialisée au fur et à mesure. Donc en gros, ça a commencé Google, c'est 2012-2013, commençait à en parler, mais pour que ça rentre, c'est 2013-2014, les gens se sont dit IA, deep learning, ça a commencé à buzzer. Mm. 2013 c'était big data, après c'était IA 2014, deep learning, et après c'est maintenant on fait deep learning, mais à quoi ça sert? Et finalement c'est assez récemment, 2-3 ans que il y a vraiment des mises en application en dehors des grands groupes de deep learning sur ça va être dans tous les sujets, dans la médecine, dans tous les sujets, l'agriculture, la médecine, le légal, la mode. Donc c'est vraiment l'innovation technologique qui a déclenché ça et après la prise de conscience qu'avec ces innovations technologiques là, ça allait faire des transformations sociétales très importantes, quoi.
Et donc tu ferais rien de différemment alors finalement?
Bien sûr, mais après en fait il y aurait tellement de choses que je ferais différemment que ce serait j'en ai pas une qui me vient en tête après qu'est-ce que je là c'est une autre question. Je pense que c'est surtout aller plus vite et ce que j'ai compris un peu plus tard, le côté ce qui est très important c'est être focus, ne pas vouloir adresser plus pas mal de sujets en même temps, bah, parce que pour vraiment être efficace, faut vraiment focus, quoi. Et ça, on me l'a dit rapidement, mais c'est vrai que pour l'intégrer, ça prend du temps, et c'est, je pense que c'est ça le point, le principal point, quoi.
Ouais.
Pour tout.
Et à part être focus, t'as des techniques de productivité ou d'organisation, des outils qui te permettent d'être bon, comme CEO, chef d'entreprise.
En fait, ce qui est top, c'est que actuellement, avec tous les outils, on va dire en mode SaaS, il y a des milliards d'outils qui permettent d'améliorer la productivité. Bon, en termes de communication, on utilise énormément nous un outil qui s'appelle Slack, qui doit être utilisé à bon escient, parce que c'est pareil, comme tout outil, ils peuvent être.
Mais typiquement, comment tu l'utilises bien, Slack?
Comme un outil de notification, pas comme un outil où on stocke de l'information. Quoi. C'est ça qui est important. C'est un outil de dire OK, on doit pas se dire OK, faut que je regarde dans Slack où est cette information. C'est plutôt de dire je target cette personne là parce que je dois lui poser une question pour laquelle ça prend 3 secondes à répondre. Ou c'est OK, voyons-nous sur ce sujet là. Enfin, c'est pour arbitrer sur des choses très pointues. Nous on utilise 0 mail. Je pense que le mail, c'est 0 mail en interne, hein, bien sûr, en externe forcément, mais je pense que les mails en interne, c'est
fini.
Je pense que c'est compliqué. C'est soit effectivement on résout quelque chose sur Slack très rapidement, ou soit on organise une réunion et on essaie de formaliser tout ça. Donc ouais, Slack, Trello pour justement, ça, c'est un outil qui permet de faire en fait des
gestion de projet.
Ouais, de gestion de projet, des post-it un peu améliorés, c'est pareil. Comme tout outil, il n'y a pas un outil parfait. Faut l'utiliser à bon escient et savoir dans quel cas il est plus pertinent. Et après, sur la partie, on va dire, plus vraiment gestion de sortie de produits, c'est les outils qui sont plus spécialisés, qui s'appellent Jira ou qui sont vraiment très, très précis, tout ça. Mais en tout cas, il y a énormément d'outils qui permettent d'améliorer la productivité, que ce soit des outils de gestion de notes, de frais. Il y en a plein, mais c'est intéressant.
Tu utilises quoi, toi?
Là, on a utilisé iPadDAT.
iPadDAT.
Voilà.
Ouais. Et c'est bien? Vous êtes content?
Franchement, ouais, ça, c'est pas mal. Non, il y a toujours des points, mais en tout cas, non, c'est très bien parce que justement, il y a un outil, on prend en photo, ça gère, et puis c'est directement connecté à la compta.
Mais ça, c'est des petits trucs.
En fait, ça,
à la con, mais qui font gagner un temps fou, quoi.
Clairement. Il y a ça. Il y en a sur tous les sujets. Il y a des, justement, quand je parlais de focus, c'est ça. C'est qu'il y a des startups qui vont se mettre sur un micro truc, mais finalement, qui est énorme, quoi. Ouais. Enfin, quand on reprend même si je repense là, qui a un succès énorme, au départ, c'était un outil qu'ils ont voulu faire en interne pour résoudre un problème qu'ils avaient en interne de communication.
Ouais.
Après, ils se sont dit, finalement, on va peut-être c'est peut-être ça, notre startup, en fait, ça va être cet outil-là, quoi. Bah, comme Amazon avec toute la partie cloud.
Ouais.
D'abord, c'était mettre en place une infrastructure super scalable, machin. Puis ils se sont dit que c'était tellement scalable qu'ils allaient peut-être vendre ça. Et maintenant, c'est ça qui leur fait leur marche, quoi.
Ouais.
Voilà.
Trop bien. Alors, je pense qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets dont tu veux parler.
Là, comme ça.
Non, on a couvert pas mal de choses. Hein.
Ouais, pas mal.
Ok, bah, je te pose ma dernière question. Tu t'y attends ou pas, non?
Non.
Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Non, j'ai pas révisé. qui je souhaiterais? C'est une bonne question. Là, je suis un peu pris.
Pris au dépourvu, hein.
Pris au dépourvu. Est-ce que Célia, tu as une idée?
Zinedine Zidane.
Voilà. Moi, Michael Jordan, mais. je pensais peut-être à Cyril Gooch, un designer qui veut sauver les océans.
D'accord, ok, très bien. Eh ben, si tu peux me mettre en relation, ce serait génial. En tout cas, merci infiniment. J'étais ravi de te rencontrer et d'échanger un petit peu avec toi. J'espère que nos éditeurs comprendront un petit peu mieux l'intelligence artificielle et ce que vous faites. Je souhaite good luck à Euritech et à toute l'équipe.
Bah, merci.
À bientôt.
À
salut.
Bientôt.
Ciao.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.